France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Taïsia Froidure, Alexandre Billard, Philippe Alexandre Théat Igou et Youtou Diego Aclopez et Olivier Deshaies. Voici la troisième et dernière émission consacrée au compositeur Florent Schmitt. 150 ans après sa naissance, Florent Schmitt, nous allons entendre de nouveau un florilège de partitions des années, cette fois-ci 30, 40, 50, en commençant par une partition commandée par le chef d'orchestre Serge Koussevitzky pour le cinquantenaire de l'Orchestre Symphonique de Boston, la Symphonie Concertante opus 82 de Florent Schmitt. Anne-Charlotte Raymond nous parlait à l'instant du concerto en sol de Ravel qui fait partie de ses œuvres écrites pour la circonstance, pour le demi-siècle de cet orchestre de Boston. Koussevitzky ayant également composé pour commandé pour l'occasion la symphonie des psaumes de Stravinsky, la quatrième symphonie de Prokofiev ou encore le concertstück pour cordes et cuivres de Hindemith. Donc cette partition de Florent Schmitt fait partie de ces festivités. Le 24 novembre 1932, c'est Florent Schmitt lui-même qui tenait la partie piano pour la création de son opus 82, accompagné par le BSO, le Boston Symphony Orchestra, dirigé par Koussevitzky. Symphonie déconcertante pour les détracteurs, mais partition à redécouvrir, comme ici, grâce au pianiste Hussein Sermet, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par David Robertson.
Thank you.
Le pianiste Hussein Sermet avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dirigé par David Robertson. C'était donc le premier mouvement de cette symphonie concertante opus 82 que Florent Schmitt avait créé lui-même à Boston en 1932 avant de la présenter à Paris l'année suivante sous la direction de Pierre Monteux, une partition qui va traverser l'Europe et qui sera interprétée en 1937 au Théâtre du Châtelet sous la direction de Paul Paré avec l'orchestre Colonne et une pianiste qui s'appelait Hélène Pignari. Un concert qui va connaître un grand scandale. Ma symphonie concertante a eu l'honneur d'être sifflée chez Colonne. Le public trouvait qu'elle s'écartait trop de Beethoven. Elle déchaîna 10 minutes de sifflets, de pugilats et de bris de parapluie sur de graciles épaules. Fin de citation. Ce qui ne va pas empêcher Florent Schmitt de présenter une autre œuvre, son œuvre favorite, d'après sa biographe Catherine Laurent. Il s'agit de Oriane ou le prince d'amour. Oriane et le prince d'amour. Partition qui a été créée après une commande d'Ida Rubinstein. Nous avons évoqué cette danseuse qui avait commandé à Ravel son boléro, qui avait dansé la Cléopâtre dans Cléopâtre et Antoine, Antoine et Cléopâtre du même Florent Schmitt. Et c'est pour Emmanuel Chabrier, à la mémoire des Noël Chabrier, que Florent Schmitt a composé cette Oriane et le prince d'amour, suite de ballet dont voici un extrait sur France Musique avec l'orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat, dirigé par Pierre Stoll.
Thank you. Thank you.
L'orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat était dirigé par Pierre Stoll. Dans cette partition de Florent Schmitt, Oriane et le prince d'amour, partition des années 30, qui évoque une belle châtelaine du Moyen-Âge dans le comtat vénitien.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Si la symphonie concertante et Oriane constituent assurément les deux partitions remarquables de ces années 30, trois autres méritent à divers titres d'être à présent abordées, écrit Catherine Laurent dans l'un de ses chapitres sur Florent Schmitt. Et la première de ses œuvres à aborder, c'est la suite en rocaille, avec laquelle le compositeur revient à la musique de chambre en 1934 après une césure d'une quinzaine d'années. Sa dernière œuvre dans ce domaine était la sonate pour piano et violon qu'on écoutait hier, qui était de 1919. Un quintet instrumental. Quant au titre « Évitons toute méprise », cette suite en rocaille n'étant rien rocailleuse, bien au contraire, elle fait esthétiquement référence au style rocaille du temps de la Régence, annonçant les grâces du style Louis XV, et donc représentatif d'un art charmant et mesuré à la française.
Thank you.
C'est entouré de trois membres du quatuor à cordes Rosamonde que la harpiste Marie-Claire Jamet et le flûtiste Christian Lardet avaient enregistré la suite en rocaille, opus 84 de Florent Schmitt, dont nous écoutions à l'instant un extrait. Florent Schmitt qui a écrit quelques partitions en hommage à des compositeurs qu'il avait aimés, comme par exemple Emmanuel Chabrier, à qui il a dédié Oriane et le Prince d'Amour qu'on écoutait tout à l'heure. Nous écoutions hier In Memoriam, vaste partition écrite pour son maître Gabriel Fauré. On pourrait citer, on doit citer, La plainte au loin du faune, une très belle partition pour piano écrite à la mémoire de Claude Debussy pour un tombeau collectif de 1920. D'ailleurs, nous consacrerons une émission entière à ces partitions de 1920 écrites pour Debussy, dont ce Florent Schmitt. Et puis, en 1936, la revue musicale rend hommage à Paul Dukas, le compositeur, entre autres, de L'apprenti sorcier, qui est passé de vie à trépas le 17 mai 1935, à 69 ans. D'ailleurs, il est mort tout près d'ici, Paul Dukas, tout près de l'actuelle maison de la radio, au 84 rue Nuremberg, comme en témoigne une plaque. Et pour la mémoire de ce compositeur, Florent Schmitt écrit, je cite, « Stèle pour le tombeau de Paul Dukas », tout simplement. C'est la première des trois œuvres qui forment « La chaîne brisée », ici interprétée par Annie Darko.
Thank you.
Stèle à la mémoire de Paul Dukas, c'est la première partition qui forme la chaîne brisée, opus 87 de Florent Schmitt, interprétée ici par Annie Darko. Florent Schmitt qui fait preuve tout au long de sa carrière d'un certain humour, de calembour, de canular que l'on voit dans ses titres, des titres un peu farfelus dans l'esprit d'Éric Satie qu'il avait rencontré. Il y a par exemple Sens unique, mais cette partition s'écrit CCDANCCDUNIK, ce qui fait qu'on le regarde une première fois, on a l'impression de voir du turc. Et c'est un jeu de mots tout simplement comme ABC, mais qu'il écrit H-A-B-E-Y-2-S-E-E. Il y a d'autres œuvres qui font allusion à la modernité, par exemple Pour presque tous les temps, qui est un quatuor qui imite le titre de Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen, etc. Il y a beaucoup d'exemples comme cela de ces titres à l'emporte-pièce, comme par exemple cette suite sans esprit de suite. C'est une partition de 1937 pour piano qu'il a aussitôt orchestré et qui met en scène quelques danses, par exemple, comme ces danses jazzistiques. Et pourtant, Florent Schmitt était loin d'être un admirateur du jazz. Pourtant, on a sous sa plume cet étonnant Bronx, ici interprété par l'Orchestre National, la BBC du Pays de Galles, dirigé par Thierry Fischer.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Mais mon passant sous
toute fluette, la bicyclette, passant trop vite la passerelle de Passy, a passé sur un passant qui faillit passer quick. Voilà un texte humoristique mis en musique par Florent Schmitt à la fin des années 30 et interprété ici par l'ensemble Calliope dirigé par Régine Teodorescu. Voilà un petit exemple de la variété des genres abordés par Florent Schmitt. En voici un autre, c'est un quatuor de saxophone. Florent Schmitt a été l'un des premiers, non pas le premier compositeur à utiliser le saxophone, Jules Massenet l'a fait bien avant lui, mais en tout cas le premier a véritablement donné ses lettres de noblesse au quatuor de saxophone, en particulier grâce à un grand maître qui est Marcel Mulle, qui a formé une génération de saxophonistes. Il est ici dans son quatuor Marcel Mulle, aux côtés de André Bauchy, Georges Gourdet et Marcel Josse. Et puis juste après, on entendra un autre quatuor à cordes, cette fois-ci un autre quatuor à cordes, opus 112 de Florent Schmitt. Mais tout d'abord, ce quatuor de saxophone sur France Musique. C'est le quatuor Marcel Mulle qu'on entendait dans cet extrait de l'opus 102 de Florent Schmitt, créé en 1943 en pleine occupation. Lors de la première émission, nous avons évoqué bien sûr le rapport de Florent Schmitt à la collaboration. Je vous y renvoie à ce premier micro de la première émission. Et nous passons à l'année 1947 avec ce quatuor à cordes interprété par le quatuor Champeille. Thank you. Jean Champeil, Georges Balbon, violon, Maurice Husson, alto, Manuel Regassens, violoncelle. C'était le quatuor Champeil dans Je, deuxième mouvement du quatuor opus 112 de Florent Schmitt, composé en 1947. Florent Schmitt venait de passer devant le comité national d'épuration des gens de lettres, auteurs et compositeurs, qui avait prononcé contre lui une peine d'interdiction d'éditer ou de faire jouer ses œuvres d'une durée d'un an à partir de octobre 1944. Pour répondre de ses actes pendant l'occupation, Florent Schmitt se défend d'un voyage en Allemagne pour avoir vu son fils, dit-il. Il se défend d'avoir participé au groupe Collaboration par souci de défendre la musique française, et il soutient des musiciens juifs comme Madeleine Gray, François Lang, Fernand Oxé. Il n'empêche que son nom est entaché à jamais, bien sûr, ce qui ne l'empêche pas en 1952 d'être commandeur de la Légion d'honneur. 1952, c'est l'année de cette partition enregistrée par l'un des plus grands violoncellistes d'aujourd'hui, Henri de Marquette, avec l'Orchestre National de Lorraine dirigé par Jacques Mercier. Voici Introit, récit et congé, opus 113 de Florent Schmitt sur France Musique. Thank you. voilà une partition qui est formée d'un prélude, andante et finale, tous trois enchaînés de façon à ne pas laisser souffler l'interprète, qui, par ailleurs, ne demanderait nullement à souffler, surtout lorsqu'il a la fortune de s'appeler André Navarra. Voilà ce qu'écrivait Florent Schmitt en 1948, au moment d'écrire donc pour André Navarra cette introïte récit et congé, opus 113. Il faut s'appeler André Navarra ou s'appeler aussi Henri de Marquette pour jouer cette partition virtuose, ici accompagné par l'Orchestre National de Lorraine, dirigé par Jacques Mercier. Florent Schmitt a beaucoup écrit pour les cordes, il a aussi beaucoup écrit pour les vents, en témoignait le quatuor de saxophone qu'on écoutait tout à l'heure. Il y a une partition qui s'intitule « À tour d'anche ». Alors, sur jeu de mots, « à tour de hanche », mais là, pas d'anche, puisque c'est les anches du hautbois, de la clarinette, du basson. « Les chants alisés », encore un jeu de mots pour quintette avant. Ou encore cette partition de 1953, Sextuor pour clarinette. Sextuor opus 128 de Florent Schmitt, un extrait de cette partition donc pour six clarinettes de 1953, à une époque où l'on connaissait tout à fait les activités et les propos de Florent Schmitt, et pourtant les honneurs tombaient encore sur le compositeur. 1952, commandeur de la Légion d'honneur, 1957, grand prix musical de la ville de Paris. On n'en était pas encore à débaptiser des collèges Florent Schmitt à cette époque. Et le 15 juin 1958, l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française, dirigé par Charles Munch, faisait la création d'une symphonie de Florent Schmitt quelques mois, quelques semaines avant sa disparition, le 17 août 1958. Symphonie numéro 2, dont voici un extrait. C'est donc l'ancêtre de l'actuel Orchestre National de France qu'on écoute aujourd'hui sous la direction d'un des plus grands chefs du XXe siècle, Charles Munch. 1958, Charles Munch dirigeait l'Orchestre National de la Radio-Télévision Française dans cette deuxième symphonie de Florent Schmitt dont nous écoutions un extrait. Je vous invite à retrouver ce compositeur dans la biographie que Catherine Laurent lui a consacrée chez Bleu Nuit Éditeur et puis toutes les références de ses disques sur notre site francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.